Voilà, bonjour à tous. Je me réjouis de vivre ce temps avec vous, ce temps de culte avec vous ce matin. C'est vrai qu'il y a un peu de frustration quand même de notre côté avec ces chants de louange. Voilà, à nos 116, on n'ose pas chanter. Alors on entend quand même un petit peu des petites voix toutes douces par-ci par-là, mais on a envie de chanter plus fort, quoi. Mais voilà. Donc profitez chez vous de chanter de tout votre cœur, quoi. Allez-y. Parce que le jour où on se retrouve ici, pour l'instant, c'est un peu plus difficile. Et voilà, j'ai intitulé mon message de ce matin Le temps du changement. Je le dis parce que Pierre, chaque fois, me demande après coup, mais qu'est-ce que je mets comme titre à ton message? Alors je le donne ce matin. Et je crois qu'on vit un temps de changement, on le voit tous, on vit un temps de changement qui est là devant nous. On est en plein dedans. Alors, bien sûr, on a en début 2021, on partage tous nos voeux à tout le monde, comme chaque année. Mais cette année, on arrive un petit peu exténué en fin 2020. On est fatigué par la réalité quotidienne de ce qu'on vit, de tout ce qu'on doit affronter. Et je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui sont abonnés à Arc Info, je pense que vous avez vu l'image, le dessin que Vincent Lépée a fait pour nous souhaiter la bonne année 2021. Je l'ai pris avec. J'espère que vous le voyez. Alors, c'est écrit Bonne année 2021. Et puis, il y a plein de monde derrière la porte qui crie, qui éternue, qui crie ouvrez, qui lance ses masques loin, les seringues, les tests PCR, tout ce qu'il y a. On veut autre chose, quoi. 2021, on l'attend parce qu'on veut autre chose. Mais 2021, la liberté retrouvée, que ça redevienne comme avant. On veut oublier 2020, on veut passer à autre chose, rattraper le temps perdu en 2021. Et c'est un petit peu comme si par un simple coup de balai ou bien par une bouteille de champagne qu'on fait péter, tout va changer. Les compteurs sont remis à zéro, c'est ce qu'on croit un peu. Et pourtant, ça fait 3 jours qu'on est passé en 2021. Si on regarde un petit peu les titres des journaux, si on écoute le téléjournal, finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Le déroulement de l'histoire du monde, il continue. Ça continue de se dérouler. En fait, on aurait bien aimé presser le bouton reset, mais on n'y est pas arrivé. Qu'est-ce que c'est le bouton reset? Vous le connaissez sûrement, ce bouton reset. Souvent, sur les appareils électroniques qu'on a, il faut appuyer un certain temps sur un bouton pour que l'appareil se rétablisse en mode réglage d'usine s'il va plus, quoi. Si ça bloque, si ça bug, en pressant ce bouton réglage d'usine, on arrive à repartir à zéro. Puis des fois, on aimerait vraiment ça aussi dans notre monde, que ça se passe comme ça. Alors, ce réglage d'usine, tout a été paramétré, enregistré à partir du moment où l'appareil est déballé. Là, il est en réglage d'usine. C'est le début. J'ai pris un appareil que vous connaissez, je pense, tous un peu, hein, c'est mon téléphone. Dans mon téléphone, je l'ai eu neuf, il n'y avait pas grand-chose dedans. J'ai ajouté des contacts, je passe des appels. J'en reçois. En fait, tout ce qu'on fait avec un téléphone, ça, c'est la partie téléphone, hein. Et puis, j'ai ajouté plein d'applications. Des applications qui sont utiles, d'autres moins. Ben oui, on peut avoir les infos, savoir la météo qu'il va faire, même les informations routières au cas où, toutes ces choses-là. Puis, bon, il y en a d'autres qui sont plus là pour. Ouais, surtout à cette période aussi, on réalise qu'on avale un peu trop de calories, alors on met encore une application pour calculer le nombre de calories, combien est-ce qu'on en dépense. Puis si jamais j'ai 30 secondes où je m'ennuie, je vais quand même encore mettre une petite application pour m'occuper. Puis finalement, j'ai quand même ajouté une application, elle est pas mal celle-là, elle peut être utile parfois, elle s'appelle la Bible. Voilà. Alors je prends des photos, je fais des vidéos, j'en reçois. Et puis tout à coup, sur mon écran, il y a un message qui s'affiche, espace de stockage insuffisant. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, moi ça m'est déjà souvent arrivé. Mais généralement, c'est à ce moment-là qu'on s'arrête, qu'on fait le point, puis on se dit, oula, qu'est-ce que je peux bien enlever sur mon téléphone? Qu'est-ce qui m'est vraiment nécessaire? Qu'est-ce qui m'est vraiment utile? Alors on prend une grande décision, je supprime ce qui m'est inutile ou ce qui m'est le moins utile, mais très vite. Je réinstalle quand même un des programmes parce qu'il me manque quand même un peu, puis c'était quand même sympa. Ou bien on peut prendre une autre grande décision. Je rétablis le paramétrage d'usine. Je perds tout ce qui est sur mon téléphone, mais je repars à zéro. Et puis là, je vais vraiment faire attention d'y mettre que ce qui est vraiment important. J'ai décidé de changer de comportement. Je vais faire attention, je vais faire autrement. Alors, certains me diront que ben, il y a qu'à acheter une carte mémoire un peu plus grande, mais ça, j'ai pas envie de ça parce que ça ne va pas pour illustrer ce que j'ai envie de partager ce matin. On est dans cette période de changement d'année et puis on commence à bidouiller dans le paramétrage de nos vies. On veut une nouvelle année qui se passe mieux. On prend des décisions, peut-être que vous en avez pris. On renonce à certaines choses. Et ça, c'est chaque année. Mais vous avez déjà remarqué, si vous avez un peu l'habitude, que l'année suivante, on renonce aux mêmes choses. Donc, quelque part, voilà, il y a eu un problème en cours d'année. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse faire un bout de chemin avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, je crois qu'il a bien des choses à nous apprendre, pas forcément ce matin au travers de ce qu'il dit, mais de sa façon d'être, de sa façon de vivre les choses. Et puis, je crois surtout aussi dans le contexte qu'on est en train de vivre, il a vraiment quelque chose à nous dire. On va aller dans Acte 9. Dans Acte 9, Étienne vient d'être lapidé à cause de sa foi. Les chrétiens sont dispersés dans toute la région parce que cette lapidation, elle cause vraiment une persécution qui se déclenche. Et dans Acte 9, on trouve Saul, qui va devenir Paul, qui lui est tellement rempli d'ardeur pour défendre ses convictions qu'il commence une campagne de persécution contre les chrétiens. On le lit dans les versets 1 et 2. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'ils trouveraient hommes ou femmes. Il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Saul, à ce moment-là, c'est un homme instruit. Il a des convictions claires, il sait ce qu'il veut, et quand il prend une décision, il ira jusqu'au bout, quoi qu'il se passe. Il s'engage à fond. Et ce n'est pas le genre de gars à se laisser déstabiliser par le premier contretemps. Il regarde droit devant lui, il fonce, il y va. Il est parfaitement paramétré, il n'y a pas de bug imaginable pour lui. Et pourtant, quand on lit les versets suivants, les versets 3 à 5, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Imaginez-vous l'effet de cette phrase sur cet homme. Il était tellement sûr de lui, tellement, tellement décidé. Et là, tout à coup, il est totalement arrêté. Ses convictions, toute sa prestance, toute sa personnalité, elle est arrêtée. Tout ce qu'il s'est construit, ça s'est effacé d'un coup. C'est le bouton reset, le fameux bouton reset où tout est effacé, il est couché au sol, il ne voit plus rien. Vous noterez que ce n'est pas Saul qui a décidé par lui-même à ce moment-là de remettre le compteur à zéro, c'est Jésus lui-même qui vient devant lui et qui décide que maintenant c'est le temps pour lui de tout supprimer et qu'il faut une nouvelle personnalité pour Saul. Retour à la case départ. Et quand je pensais à ce retour à la case départ, ça m'a fait penser à un verset dans Genèse 2, Genèse 2, 7, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Quand le Seigneur presse sur le bouton reset de nos vies, on devient un être vivant. C'est vraiment, moi j'imagine vraiment ça de la même manière, quoi. Dieu insuffle quelque chose en nous et nous devenons un être vivant. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui change dans notre vie. Et pour Saul, c'est ce qui se passe. À partir de ce moment-là, couché là par terre, Saul est transformé. envie de dire, c'est toujours le même Saul. Les gens qui sont autour de lui vont le reconnaître, c'est Saul. Quand il va être au début de sa conversion, quand il va aller retrouver les chrétiens, ils auront peur de lui parce qu'ils le reconnaissent. Ça reste Saul, ça reste cette personne. Mais le contenu, ce qui est en lui, a totalement changé. Paul gardera la même ardeur, il sera autant décidé quand il prend une décision, il sera autant fervent dans sa décision, mais c'est plus lui qui dirige les choses. Il le dit bien dans Galates 2:20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Et dans toute la vie de Paul, de tout ce qu'il a fait dans la suite, on voit clairement les conséquences de ce changement. Les conséquences de ce Christ qui vit en lui. Ça change tout pour lui. Et j'aimerais en venir à un passage qui nous parle de ce Paul qui est transformé et puis qui vit une expérience merveilleuse. Une expérience merveilleuse qui finalement va le conduire dans une situation vraiment pénible. Et j'aimerais faire un petit peu un parallèle avec ce qu'on vit actuellement. On va partir avec Paul dans son deuxième voyage missionnaire. C'est dans Actes 16. Actes 16. Actes 16, verset 5. Je disais, ce n'est plus les projets de Paul qui comptent, mais c'est la direction du Saint-Esprit dans sa vie. C'est vraiment ça qui va le guider. Et on en voit les conséquences déjà dans Actes 16, verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. On se dit, waouh, là il y a de la réussite. L'église se fortifie, elle grandit, il y a du fruit à l'engagement de Paul. Et quand il y a du fruit, ça nous motive, il faut aller plus loin, et on continue, on persévère. Et Paul fait la même chose. Au verset suivant, au verset 6, il est dit « Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, empêché par le Saint-Esprit. » Tout d'un coup, Paul, il est arrêté. Alors, on va lire ce texte jusqu'au verset 10. « Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. « Passe en Macédoine, secours-nous !» Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Paul a des projets, il a plein de projets. Mais il est à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et à un moment donné, il est empêché par le Saint-Esprit, même deux fois là, hein, en très peu de temps. Comment est-ce que le Saint-Esprit s'y est pris? Ce n'est pas noté. Est-ce que quelqu'un a reçu une parole de connaissance? Est-ce que les circonstances ont fait qu'il n'a pas pu le faire? On n'en sait rien, mais le Saint-Esprit a conduit les choses pour que Paul et Silas ne partent pas là où ils voulaient aller. Et Paul et Silas restaient attentifs au Saint-Esprit. C'est parce qu'ils étaient attentifs à lui qu'ils ont pu réaliser que leur projet n'était pas les bons et qu'ils ont pu renoncer à temps et laisser le Seigneur les conduire. Paul a cette vision de la Macédoine et puis il décide de partir. On y va, on va là-bas. Alors il s'arrête à Philippe, qui est une des villes de la Macédoine. Là, ils sont sur leur champ missionnaire. Ils obéissent au Seigneur, ils sont à leur place. Ils sont là où le Seigneur les a envoyés. Et il y a une première conversion. Je vais passer rapidement sur cette première conversion, mais c'est la conversion de Lydie. Lydie, c'est une marchande de pourpre. Ce pourpre, c'était une étoffe qui était très chère, qui était portée par les notables, par les familles riches, les familles royales. Donc, quelque part, là, Dieu est en train d'ouvrir tout grand une porte pour Paul et Silas parce que c'est la personne qu'il leur faut pour atteindre les personnes influentes de la ville. Alors on peut tout de suite faire des, des projets, s'imaginer plein de choses. Moi, à la place de Paul, je me serais accroché à cette porte. J'aurais réfléchi, mais comment est-ce qu'on va faire à partir de là? Mais Paul et Silas continuent leur ministère dans cette ville tout différemment, à partir du verset 16. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas, ils les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Paul et Silas qui sont à l'écoute du Saint-Esprit. Il y a comme quelque chose qui ne joue pas quelque part là. Si Paul avait fait autrement, et on se pose plein de questions. Là, on voit une femme qui les suit partout, qui explique pourquoi ils sont là, elle dit la vérité, elle dit clairement ce que Paul et Silas sont en train de faire. Et en plus, c'est une femme qui doit être écoutée aussi dans la ville, puisque plein de monde payait pour connaître leur avenir. Donc, ils écoutaient ce que cette femme disait. Paul, pourquoi est-ce que tu es agacé? C'est un peu la question qu'on pourrait se poser. Pourquoi est-ce que tu es agacé? Profite plutôt de cette situation pour annoncer ce Dieu très haut dont elle parle. Est-ce que là, tu es en train de te faire rattraper par ton vieil homme? Ça, c'est toutes nos réflexions, hein. Mais au vu du résultat, on peut vraiment se dire, mais là, tu t'es trompé. Tu t'es laissé submerger par la situation. Mais le texte qu'on vient de lire, il nous dit tout autre chose. Et c'est vraiment le contraire. Paul a discerné l'esprit qu'il y avait derrière cette femme, derrière ces paroles flatteuses, ces paroles qui peuvent faire du bien, mais il a discerné l'esprit qui est derrière. Et dans sa vie, il n'y a pas de place pour le compromis. Pas de place pour le compromis dans le message qu'il veut apporter aux Philippiens. Il veut quelque chose. Il veut apporter un message clair qui n'est pas à moitié pris dans ce qui est en train de se vivre dans cette ville. Non, c'est un message tout autre. Encore une fois, dans ce moment-là, Paul et Silas sont conduits par le Saint-Esprit. Et pourtant, les conséquences sont dramatiques. Paul et Silas sont traînés sur la place publique. Ils sont accusés de semer le trouble dans la ville. On leur arrache leurs vêtements, on les fouette, on les roue de coups, on les jette en prison et on les considère comme des prisonniers extrêmement dangereux parce qu'on les met dans la partie haute sécurité de la prison. Leurs pieds sont mis dans des entraves, il n'y a plus possibilité de bouger. Malgré la douleur, malgré peut-être le froid, l'humidité, la nuit, je ne sais pas exactement. On peut s'imaginer plein de choses, mais ça ne devait pas être le grand confort, et de loin pas. Alors, on connaît pour la majorité d'entre nous la suite de l'histoire. Mais essayons de ne pas en tenir compte et de nous mettre à la place de Paul et Silas. Si moi j'étais à leur place, avec mes douleurs, dans ce froid, dans la nuit, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer demain matin? Avec la manière dont on a été arrêté, on peut s'attendre au pire. Est-ce qu'on a une chance de s'en sortir? Et franchement, à la place de Silas, je reprocherai quand même à Paul son manque de maîtrise face à cette femme. Parce que c'est ça qui a tout déclenché. C'est quand même sa faute si maintenant Paul et Silas sont dans cette situation-là. Alors une fois qu'on a réglé tous nos différends, hein, qu'on a dit tout ce qu'on pensait, il n'y a plus qu'une seule solution, il faut qu'on prie. Seigneur, tu vois notre situation, tu vois comme c'est injuste, fais que demain les choses s'arrangent. Là, je caricature un peu hein, dans ma façon de dire les choses. Mais il y a quand même quelque chose de ce genre. Je me fais des films. J'essaie d'imaginer comment les choses pourraient se passer. Comment est-ce que Dieu pourrait éventuellement agir? Est-ce qu'on n'est pas souvent comme ça dans la situation qu'on est en train de vivre? C'est vrai que c'est une situation qui n'est pas comparable à ce que Paul et Silas vivaient. Mais même là, on fait nos films, on s'imagine les choses. On va retrouver Paul et Silas dans leur prison. Dans la suite, à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Ils avaient une toute autre attitude que celle que je viens de vous décrire, que celle qui aurait pu être mon attitude. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Saul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur servit à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Ces quelques versets font une inversion totale. Tout s'est inversé, tout a changé. Tout est différent maintenant. Et quand on y réfléchit, c'est une situation totalement irréaliste. Même dans les meilleurs films, ça ne se fait pas, c'est trop gros. C'est absolument pas crédible. Toutes les portes s'ouvrent. Les liens de tous les prisonniers se détachent. Ce n'est pas des petites cordelettes, ce n'est pas des petites chaînes. C'est des liens, c'est des entraves. Ils ont les pieds qui sont coincés entre deux bouts de bois. Tous se détachent, ils sont tous libres. Et en plus, tous ces prisonniers, ils restent absolument tous sur place. Personne ne tente de s'échapper. Il y a quelque chose de pas normal. Et c'est vrai, il y a quelque chose de pas normal, de quelque chose de pas humain là derrière. Quand on nous offre la liberté, on la prend. Mais il y a quelque chose de pas humain, quelque chose de bien plus fort que ce qui se passe humainement. La présence de Dieu dans cette prison à ce moment-là devait être tellement forte que ça comptait, que tout le reste ne comptait plus pour ces gens. Pourtant, il n'y avait pas des effets de lumière, il n'y avait pas les paroles qui étaient bien affichées pour qu'on puisse bien chanter avec. Non, il n'y avait pas tout ça. Il y avait deux hommes qui étaient prêts à entrer, qui voulaient entrer en communion avec Dieu, qui louaient Dieu, qui se réjouissaient de lui appartenir. Dans leur situation difficile, c'était ces deux hommes-là. Et cette louange, l'Esprit de Dieu est au milieu d'eux. Il est au milieu de cette prison, je dirais même, il est même sous cette prison, sous les fondations de cette prison, quand on voit ce tremblement de terre. Et pour ce gardien de prison, C'est le fameux reset. Tout à coup, là, il réalise, mais il y a quelque chose de plus. Moi, ce que je vis, ça, c'est rien. Tout est remis à zéro. Tout ce qui s'est construit n'a plus de valeur. Il abandonne son poste de gardien. Il l'abandonne. Il ne se pose pas de questions par rapport aux autres prisonniers, s'ils vont s'enfuir ou pas après. Parce que si les prisonniers s'enfuient, c'est au risque de sa vie. Il est répondant pour ces prisonniers qu'il doit surveiller. Il ne s'inquiète même plus de ça. Il n'entend plus qu'une seule chose, c'est Jésus qui l'appelle. Jésus appelle ce gardien et il répond. Et je me suis posé cette question, j'ai fait le lien, alors c'est ma réflexion. Quelle était la vision de Paul avant de partir pour Philippe? Il voyait un Macédonien qui criait « Passe à Macédoine, secours-nous ! » Et si ce Macédonien, c'était ce fameux gardien? Si c'était ce fameux gardien, il fallait que tout ce qui s'est passé se passe pour que Paul et Silas puissent l'atteindre. Pour que ce gardien et sa famille puissent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il fallait ce passage difficile pour Paul et Silas pour voir la gloire de Dieu se manifester. Et notre situation aujourd'hui, elle est en rien comparable avec ça. En rien comparable avec la situation de Paul et de Silas. Elle est en rien comparable avec la situation de bien des chrétiens qui vivent des persécutions, qui doivent se cacher pour vivre leur foi au risque de leur vie. Pourtant, je crois qu'au travers de cette histoire, de ces passages bibliques, le Seigneur veut nous parler. On l'a dit, le monde entier vient de franchir 2021. Avec un espoir immense que les compteurs repartent à zéro, que toutes les difficultés 2020 restent bloquées à la porte, que 2021 soit l'année des libertés retrouvées. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, à quoi est-ce qu'on aspire en ce début d'année? Bien sûr qu'on aimerait que les choses se passent le plus simplement possible, et bien sûr, qu'elle se passe le mieux. On a tous envie de ça. Mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour que ce que le Seigneur a prévu se passe? Dans cette fameuse image, on voit une foule qui cogne contre cette porte de 2021. Parce qu'ils n'en peuvent plus de 2020. Et franchement, on aimerait tous que 2021 se passe différemment, que ce soit plus calme. Mais je crois que notre espérance doit être ailleurs, au-dessus de cette année 2021. Rappelons-nous le jour où nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je l'ai fait parce que c'était le seul chemin pour me sortir de ce monde de péché. Ça a été mon reset, ça a été ma remise à zéro. Alors pour certains, c'est voilà, comme Paul, en une fraction de seconde. Pour d'autres, ça peut être sur un long moment. Pour moi, je ne peux pas vous dire à quel moment exactement, mais durant toute mon enfance, je réalisais de plus en plus que j'avais besoin de Jésus, jusqu'au jour où oui, je lui ai dit oui. Je lui ai dit clairement oui. Et j'ai voulu le suivre. Un des derniers chants que Glorious a sorti dans son dernier album, il dit ces paroles: « Quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Quel jour de joie quand Dieu est venu me chercher. Dieu a tout changé. » Oui, c'est une réalité merveilleuse de rencontrer le Seigneur. C'est une réalité merveilleuse. Et je crois qu'en tant que chrétien, en tant que vieux chrétien, si j'ose dire ça comme ça, on a tendance à l'oublier. On entre dans notre routine, on entre dans quelque chose qui est normal, dans la normalité des choses. Et pourtant, Dieu a tout changé. C'est lui qui m'a donné une espérance, comme il l'a donné à Paul, comme il l'a donné à Lydie, comme il l'a donné à ce gardien, à sa famille. Pourtant, dans ma vie, il m'arrive de devoir m'arrêter pour faire le bilan. Pas forcément en fin d'année, mais il y a des moments où je dois m'arrêter. Parce que je réalise qu'il y a des bugs, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Et là, je réalise que, comme pour mon téléphone, je me suis chargé de choses inutiles qui me remplissent la tête parfois, qui ne me servent qu'à perdre du temps, mais de l'énergie. Et je crois que cette période qu'on vit, c'est l'occasion aussi de faire un bilan, de faire le ménage dans notre vie, dans ma vie, dans ta vie. Et j'aimerais vraiment t'encourager de ne pas passer à côté de ce moment. C'est vital pour notre relation avec Dieu, de vivre ces moments de remise en question où Dieu peut nous parler. Ce fameux dessin m'a fait penser à autre chose encore. Et là, ce n'est pas une vision que j'ai eue, ce n'est pas une révélation que je vous partage, mais plutôt une remise en question qui m'a été donnée à moi. Et si cette porte 2021 était la porte de nos églises? Vous la voyez, cette porte 2021? Elle est fermée. Alors, je ne parle pas des portes fermées à cause de la situation sanitaire, à cause des mesures, mais d'un certain confort, voire même d'un confort certain qu'on aime bien avoir dans nos églises, dans notre église aussi. Se retrouver juste entre nous, de pouvoir vivre des moments chouettes ensemble, de pouvoir louer Dieu ensemble. Combien de personnes risquent de ne pas trouver la porte du salut parce que les portes de l'Église sont fermées? Je ne parle pas que de notre Église, je parle de l'Église de Jésus-Christ en général. Combien de personnes sont, pas physiquement, en train de taper à notre porte, mais sont en train de taper à la porte de Dieu? Où es-tu, Dieu? Où est-ce qu'il est? Qui est-ce qu'il est? Alors peut-être que l'Église n'aura plus jamais le même visage qu'elle a eu avant, le même fonctionnement qu'elle avait avant. Mais est-ce qu'on va rester assis à regretter le passé? Ou est-ce que, comme Paul et Silas, on est prêt à se lever dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, à dire, OK Seigneur, on en est là, mais on se réjouit de ce que tu prépares pour la suite, parce que tu restes le maître de toutes choses. Est-ce qu'on est prêt à rester dans la louange, dans la prière, dans l'adoration? Est-ce que notre relation à Dieu est la priorité? Est-ce qu'elle reste notre priorité dans ces moments maintenant, aujourd'hui? Soyons attentifs à ne pas voir la réalité de nos yeux, mais être attentifs à la réalité du Saint-Esprit, de ce que le Saint-Esprit veut nous montrer. Être attentifs à la direction qu'il veut nous donner. On peut s'imaginer plein de choses pour la suite. Ah, peut-être que, comme on aurait pu le faire dans la prison avec Paul. Non, soyons, premièrement, regardons à Dieu. On est tous différents dans notre fonctionnement, c'est vrai, mais on peut tous lui faire confiance. Il sait exactement de quelle manière il veut nous conduire. Notre part, c'est de le louer, c'est de l'adorer dans tout ce qu'on vit. Lui, il s'occupe du reste. Le projet final de Dieu, il est mentionné clairement dans sa parole, hein, dans 1 Timothée 2, 4. Il est parlé de Dieu ici dans ce texte. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu, et je crois vraiment que Dieu, que le Seigneur veut des portes ouvertes. Les portes de nos églises, les portes de nos foyers, même les portes de nos vies, les portes de nos vies face aux autres personnes, de nos relations. Il a besoin de portes ouvertes. Le Seigneur a besoin de portes ouvertes pour aller plus loin, pour que sa parole puisse toucher les cœurs qu'il veut toucher aujourd'hui. Le Seigneur n'est pas dépassé par ce qu'on vit, ou non. Il sait exactement où on en est, et il sait exactement ce qu'il peut faire avec ce qu'on vit. Alors aujourd'hui, c'est encore le temps de lui ouvrir nos portes. C'est encore le temps de lui dire, mais oui Seigneur, je veux te laisser agir. Je veux te laisser me conduire là où tu veux, même s'il y a des moments difficiles. Si c'est pour ta gloire, je suis prêt à le faire. Est-ce qu'on est prêt à faire cette prière? Mais pour vous dire, oui, c'est vrai. Les projets du Seigneur, ils sont merveilleux. On ne les connaît pas. Et il ne va pas forcément nous les dévoiler aujourd'hui, nous dévoiler la finalité de ces projets dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais faisons-lui confiance. Il va nous guider, il va nous conduire. Cette année 2021, ça peut être son année, l'année où le Seigneur peut agir avec puissance dans cette ville, dans les personnes qui sont autour de nous. Est-ce qu'on est prêt à lui obéir pour que ces choses puissent se passer? J'aimerais encore prier. Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que toi, tu as tout accompli. Quand tu es venu sur cette terre, Seigneur, c'était pas simplement pour venir nous chercher. C'était pas simplement pour nous dire où est Dieu. C'était pour nous ouvrir le chemin auprès du Père. Et ça t'a coûté ta vie. Tu es venu donner ta vie sur cette terre. Tu as tout accompli pour qu'aujourd'hui on ait accès au Père. Oui, tu l'as fait. Et Seigneur, aujourd'hui on est sur cette terre, on est tes enfants. Et on veut apprendre, Seigneur, à marcher avec toi. Apprendre à marcher dans les chemins qui sont là devant nous, même s'ils peuvent être bosselés parfois, qu'ils peuvent être caillouteux, que parfois on peut même s'écorcher les genoux sur ces chemins. Seigneur, on veut marcher, on veut avancer avec toi. On a besoin de ton esprit pour nous guider, pour nous conduire. Remplis-nous de ton esprit. Remplis chaque personne, chacun d'entre nous de ton esprit, pour qu'on puisse entrer, Seigneur, dans les projets que tu nous montres, qu'on puisse suivre ton chemin, qu'on puisse marcher dans tes pas. Et où qu'il nous mène, Seigneur, on sait que tu es avec nous, c'est l'essentiel. Parce que là où tu es, il y a la vie, il y a ta vie, Seigneur. Et merci parce que, oui, ta vie est en nous, et ta vie, Seigneur, veut toucher les cœurs, veut transformer des vies encore, d'autres vies. Comme tu l'as fait avec Paul et Silas, tu as transformé des vies au travers d'eux. Eh bien, Seigneur, qu'au travers de l'Église, dans cette année, au travers de nos foyers, dans cette année, au travers de nos vies, dans cette année, tu puisses transformer des vies, Seigneur. Alors, on veut simplement nous mettre à ta disposition et te dire, oui, Seigneur, on veut se laisser transformer, que tu puisses enlever ce qui doit être enlevé dans nos vies, que tu puisses transformer ce qui doit être transformé dans notre vie pour qu'on entre, Seigneur, dans tes projets. Et je te bénis, Seigneur, pour ces projets. Je me réjouis de les voir se réaliser parce que, Seigneur, tes projets, tu les mènes à leur terme. Et, Seigneur, merci. Merci parce que tu es fidèle. Tu es ce Dieu tellement fidèle dans tes projets, mais fidèle aussi pour tes enfants, Seigneur. Je te donne toute la gloire ce matin. Amen.